pas de peau, y'a un hic.
On continue avec Sylvie Tissot et Pierre Thévagnan autour de ce livre. Donc, les mots sont importants. Bon, c'est des papiers publiés au jour le jour, au coup par coup. Là, vous avez reconstruit sur 10 années, 31 textes, je le rappelle, pour montrer votre travail. Qu'est-ce qui caractérise ces 10 ans?
On pourrait dire c'est la suite de la lepénisation des esprits, mais c'est la lepénisation des esprits, elle commence dans les années 90. On pourrait dire c'est la suite, sa radicalisation, son institutionnalisation, on pourrait dire aussi.
Son renouvellement, puisque justement, il y a des thématiques qui sont usées, comme par exemple celle du clandestin, la figure du clandestin et le mot clandestin lui-même qui véhicule des peurs, des inquiétudes. C'est quelque chose qui marche moins bien depuis qu'il y a des mouvements de sans-papiers qui sont sortis au grand jour et qui ont montré qu'ils n'avaient rien de si patibulaire. Bien au contraire, ce sont des ouvriers pauvres qui réclament finalement pas grand-chose. Il y a des termes comme ça qui étaient très 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 utilisés, qui étaient la base du vocabulaire et du registre argumentatif, qui sont un petit peu délaissés au profit d'autres. Donc à un moment donné, ça a été l'insécurité. À d'autres moments, après le 21 avril 2002 justement, où là, quand même, il y a eu des soupçons et des critiques dans l'opinion sur est-ce qu'on n'en a pas un peu trop fait. Donc ça s'est redéplacé justement sur les femmes, les violences faites aux femmes, qui permettaient de redonner un vernis progressiste à ces problématiques sécuritaires. Et puis il y a eu évidemment le 11 septembre, et surtout la gestion idéologique et politique et médiatique du 11 septembre, qui là a vu une montée en puissance de thématiques qui émergeait déjà, bien sûr, dans les années 80, mais à savoir celle de l'islam et de l'islamophobie.
Oui, c'est-à-dire que la lepénisation des esprits, aujourd'hui, elle s'alimente directement de la rhétorique du choc des civilisations entre un Occident progressiste, éclairé, dédié à l'égalité des hommes et des femmes, et un Orient ou un monde musulman obscurantiste, totalement haut, totalement étranger. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose de nouveau qui arrive avec le 11 septembre, mais qui prend une forme très particulière en France aussi. Hein, c'est-à-dire qui se nourrit aussi d'un discours sur la laïcité à la française, qu'on ne retrouve pas dans d'autres pays, même si dans d'autres pays on peut retrouver ce discours du choc des civilisations, comme aux États-Unis. Mais en France, il prend une forme très particulière. Il se veut universaliste, il se revendique aussi d'une tradition qui serait une tradition républicaine, laïque, etc.
Peut-être aussi un point plus positif sur ces 10 années, c'est qu'il y a des résistances, il y a des questions qui émergent un petit peu, et qui était encore plus occulté qu'aujourd'hui dans les années 80 et 90, celle de la discrimination par exemple. Il y a des gens qui ouvrent leur gueule, qui revendiquent et qui font émerger malgré tout, tant bien que mal, malgré l'espèce de chape ou de sourdine qu'essayent de mettre les grands médias et les grands partis sur ces questions. Et j'ai même envie de dire que l'un et l'autre s'alimentent. En gros, la parole haineuse, stigmatisante, n'a pas besoin de proliférer quand l'ordre inégalitaire n'est pas du tout contesté. Quand les subalternes restent à leur place, on n'a pour eux que de la bienveillance paternaliste. Et lorsqu'on commence à hausser la voix, se fâcher tout rouge, alors voilà, on peut penser à Hortefeux, à Finkielkraut, à Sarkozy, à montrer les biscottos et à sortir l'injure, c'est pas un racisme tranquille, c'est un racisme inquiet. Voilà, le point positif, c'est peut-être celui-là. Il y a des résistances face à cet ordre qui est très brutal, mais qui n'est pas incontesté.
Oui, vous citez une phrase d'une personne qui travaille, c'est Christine Delphi qui dit « les dominés ne se libèrent pas de la façon que les dominants souhaitent ».
Voilà, c'est ça. Ça fait jamais plaisir aux dominants, la manière dont ils le font, parce que, effectivement, ils le font en remettant directement en cause le pouvoir des dominants. Alors, elle le dit initialement à propos des femmes, mais finalement, on peut le dire...
Mais tout ce travail, tout votre travail, vous et votre collectif, repose encore une fois sur le langage. Et je reviens au tout début du bouquin où vous citez Orwell. Évidemment, Orwell, c'est 1984, et 1984, c'est la critique du totalitarisme. Mais ce que vous dites, c'est que aujourd'hui, ça peut paraître bizarre de citer Orwell, alors que nous vivons dans une société démocratique, ouverte, avec une grande liberté d'expression, dit-on et croit-on. Et vous dites, plus un régime se dit démocratique, pratique et égalitaire, plus il doit légitimer la violence qu'il exerce et l'ordre inégalitaire qu'il instaure. C'est ça, c'est-à-dire que vous avez plus de boulot qu'Orwell en avait.
Oui, c'est ça.
Et puis, nous avons plus de boulot, je me mets quand même dedans.
Et puis pourquoi on cite Orwell? Parce que Orwell, ce qui l'intéresse, ce qui pointe, c'est comment défendre l'indéfendable. Enfin, comment s'organise la défense de l'indéfendable? Comment la violence la plus forte, à la fois physique, symbolique, les inégalités les plus criantes, comment tout ça peut être justifié, peut être défendu? Et c'est pas si simple que ça. Il en faut des mots pour ça, des mots, des nouveaux mots, des discours, des dispositifs. Et c'est vrai